Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, pour cette nouvelle émission au fil des pages, je vous propose de vous intéresser au manifeste de l'altruisme de Philippe Kourilski, publié en avril 2011 aux éditions Odile Jacob. Le terme d'altruisme a vu le jour en 1850 sous la plume d'Auguste Comte. Il nous dit que par nature, les affections altruistes sont désintéressées. Il s'agit en somme d'une sorte de religion de la gentillesse. Mais ne confondez pas altruisme et générosité. L'auteur, dans son ouvrage, nous illustre cette différence par un exemple parlant. Faire un don à une fondation est un acte de générosité. Mais il ne s'agit pas d'altruisme. Il s'agit d'un choix, celui de faire un don généreux. En revanche, payer ses impôts, dont on sait qu'ils serviront à la collectivité, est un devoir d'altruisme, ce n'est pas un acte de générosité. On peut donc être altruiste sans forcément être généreux, ou inversement, être généreux sans pour autant être altruiste pour un sou, en témoignent certaines grandes fortunes exilées dans les paradis fiscaux qui font cependant des dons généreux à des fondations. Puisqu'il s'agit d'un manifeste, Philippe Kourilski liste dans son ouvrage 40 propositions d'action pour un libéralisme altruiste, il nous dira en quoi ça consiste dans quelques instants, une justice sociale, une nouvelle philosophie politique, bref, comment penser en termes collectifs plutôt qu'en une association d'intérêts individuels. Philippe Kourilski, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Academy. Vous êtes immunologiste, membre de l'Académie des sciences, professeur au Collège de France, directeur honoraire de l'Institut Pasteur. Au cours d'une première émission sur Canal Academy intitulée En habit vert, nous avions évoqué votre parcours et nous nous étions intéressés à votre livre Le temps de l'altruisme, édité en 2009. Aujourd'hui, vous récidivez, si je puis dire, puisque vous publiez toujours chez Odile Jacob le Manifeste de l'altruisme. Pourquoi ce deuxième livre, Philippe Kourilski ?
Oui, je suis un dangereux récidiviste, mais sous une forme un peu différente. Le temps de l'altruisme avait un point d'ancrage essentiellement épistémologique, tandis que le Manifeste de l'altruisme est véritablement un engagement politique au sens large du terme, dans le sens d'une morale publique qui me paraît faire largement défaut aujourd'hui.
Vous parlez donc d'altruisme qui est un devoir de liberté. En d'autres termes, toute liberté s'accompagne nécessairement d'un devoir d'altruisme.
Oui, parce que pour moi, la liberté, c'est un droit absolument fondamental. On peut évidemment la penser de façon très globale, mais on peut également la penser, comme le fait Amartya Sen, au sens des libertés individuelles, c'est-à-dire les libertés dont l'individu jouit effectivement. Et c'est vrai que quelqu'un de pauvre est libre en principe, mais enfin, s'il ne peut pas acheter du pain, on ne peut pas dire qu'il est vraiment totalement libre. Quand on pense liberté individuelle, on se dit ensuite, oui, mais c'est un postulat moral, hein, à tout droit, y a-t-il ou non un devoir associé ? Oui, à tout droit, il y a des devoirs qui sont associés. Et si l'on pense maintenant quels sont les devoirs qui sont associés aux libertés individuelles, je pense que ce qui apparaît très clairement, c'est effectivement un devoir d'altruisme, parce que nos libertés individuelles ne sont pas seulement limitées par celles des autres, comme on le dit d'ordinaire et comme on l'apprend dans tous les manuels d'éducation civique, elles sont également construites grâce à celles des autres, et c'est bien ce que nous démontre la globalisation et ce qu'elle nous démontre de façon éclatante. Nous sommes complètement interdépendants, et pour reprendre cet exemple, je peux éventuellement avoir les moyens de m'acheter du pain, donc très bien, mais il faut un boulanger pour faire le pain. Donc s'il n'y a pas de boulanger, il n'y a pas de pain, donc je ne suis pas libre non plus. Donc nos libertés sont bien construites grâce à celles des autres, et le devoir associé aux libertés individuelles, c'est un devoir individuel d'altruisme. Alors je dois dire que j'ai modifié le nom parce que l'expérience de mon premier livre, qui était donc Le temps de l'altruisme, il y a un an et demi, m'a montré que la notion d'altruisme restait source de malentendus. C'est un terme qui est vaste, qui englobe beaucoup de notions, dont certaines sont de l'ordre du rationnel, dont d'autres sont de l'ordre de l'affectif. En gros, ça veut quand même dire un mouvement vers l'autre qui se produit en l'absence de l'attente d'un don réciproque. En gros, ça veut dire ça. Mais enfin, on répertorie une quinzaine de définitions différentes de l'altruisme. L'altruisme rationnel que je prône n'en est qu'une des facettes. Et donc, j'ai finalement utilisé le terme d'altruité que j'ai inventé.
Mais c'est un néologisme.
C'est un néologisme, un peu arculon, mais enfin bon, je l'ai inventé parce que je voulais de cette manière désigner ce segment, si je peux dire, de l'altruisme qui est strictement rationnel et de l'ordre du devoir parce que c'est le complément de la liberté, notamment au niveau individuel, des libertés individuelles.
Donc, c'est donc une obligation vis-à-vis de la liberté. Si on...
C'est l'obligation associée à la liberté. Donc s'il n'y a pas de droit qui n'est de devoir associé, le droit à la liberté est associé à un devoir d'altruité. Voilà. C'est le pendant indispensable de la liberté dans cette perspective.
Alors, on va y revenir au cours de cette émission. Il y a bien sûr toute une réflexion et une critique aussi du système économique libéral. Vous parlez même de libéralisme altruiste, hein, je lisais au préambule de cette émission. Dans votre introduction, vous dites que les problématiques humanitaires et planétaires ne peuvent pas être dissociées. Elles sont donc interdépendantes, c'est le terme que vous avez utilisé il y a quelques instants. Et les traiter séparément amènerait à créer une compétition entre... en fait, sauver la planète ou nourrir une population. On va justement vers cette dualité pour chaque conflit à venir, Philippe Kourilski.
Je pense qu'on y va et en fait, c'était ma motivation pour me pencher sur cette question de l'altruisme et de l'altruité, écrire ce manifeste. Il y a plusieurs années, je suis absolument convaincu que l'on n'arrivera pas à gérer de façon convenable et surtout simultanée les problèmes de la pauvreté et les problèmes de la planète. Et le choix entre, en gros, abandonner des pauvres à leur situation misérable et souvent mortelle, et le choix d'abandonner la planète à nos enfants dans un état désastreux, c'est pas un choix, c'est simplement inacceptable. Et donc, si on ne peut pas faire les deux, ce qui est aujourd'hui, à mon avis, le cas, il n'y a pas assez de ressources pour faire ça, ben, il faut se mettre au travail et réfléchir. Et se mettre au travail et réfléchir, ça aboutit pour moi à repenser la question de la liberté, et d'y introduire l'altruisme, ou plus exactement l'altruité, comme un devoir individuel, qui évidemment est censé ensuite produire quelques effets collectifs. Mais ça a vraiment été mon fil conducteur pour démarrer cette réflexion sur l'altruisme.
Alors le souci, c'est, en le disant de manière triviale, de mettre tout le monde d'accord. Pour parler de la crise économique, vous faites le constat suivant. Les plus riches seraient tenus de faire un effort accru alors qu'ils sont un peu moins riches, conséquence de la crise. Et puis ceux qui commencent tout juste à s'enrichir, eux seraient mis à demeure d'abandonner une partie de ce qu'ils commencent tout juste à gagner. Alors justement, comment arriver à mettre d'accord des personnes qui ne sont pas au départ sur le même pied d'égalité ?
Vous avez tout à fait raison et cela nous amène à réfléchir peut-être moins à la notion de l'égalité qu'à la notion de l'équité. Je prends pour exemple les négociations de Copenhague sur le climat. Elles ont plus ou moins échoué, enfin c'est pas un immense succès, il n'y a pas eu vraiment beaucoup de progrès, et elles ont en partie échoué, il n'y a pas eu d'accord. Pourquoi ? Fondamentalement parce que les pays les moins riches ont estimé que les propositions des pays riches n'étaient pas justes. Et là j'insiste sur un point qui m'a toujours paru très important, mais qui est évidemment très simple, c'est que au niveau international, les décisions se prennent par consensus. On ne vote pas. On est censé tomber plus ou moins d'accord. Alors, il ne faut pas être angélique. Hein. Tomber d'accord, c'est... Il y en a qui se font un peu tordre le bras. Enfin bon, il y a de la négociation. Mais je ne vois pas comment, globalement, on tombe d'accord lorsque la notion d'équité n'est pas présente. Et donc, cela amène véritablement à remettre au centre de la réflexion la notion d'équité. Et comment parvenir à des propositions qui soient jugées équitables par à peu près tout le monde ?
Alors, je le disais, vous parlez de libéralisme altruiste et d'altruité, hein, bien sûr, parce que c'est le terme que vous utilisez. Est-ce que ce ne sont pas deux termes assez antinomiques, puisque le libéralisme, c'est le développement des intérêts particuliers, alors que l'altruité, comme vous venez de nous le dire, c'est justement une pensée collective ?
Pas d'accord.
Pas d'accord.
Pas d'accord.
Et
pas
pourquoi ?
D'accord parce que la définition première du libéralisme, le libéralisme de l'époque des Lumières, c'est en gros la philosophie politique, qui sont bientôt devenues les philosophies politiques, de la liberté. Donc c'est la liberté qui est au centre du libéralisme philosophique des origines, ça n'est pas l'individu en tant que tel.
Mais il y a une compétition qui s'exacerbe.
Ah, bien entendu, dès le moment où vous mettez la liberté au centre, évidemment... Au début du XVIIIe siècle, l'abolition de l'esclavage, etc., la notion de la liberté était très prégnante et très importante, et nous avons évolué depuis ce moment-là. Mais lorsque vous la mettez au centre, vous ne mettez pas forcément l'individu complètement au centre, dans la mesure où vous acceptez que la liberté a des limites, ça tout le monde l'accepte. je corrige cette notion en disant que ce n'est pas seulement des limites, c'est que les autres nous aident à construire notre liberté. Donc il y a plus que la limite, ce n'est pas uniquement du négatif. Donc, si vous voulez, le libéralisme, et c'est un malentendu très fréquent en France, où je ne sais pas pourquoi on a beaucoup de mal à se mettre d'accord sur le sens du terme. Alors, beaucoup comprennent libéralisme. Ouais, c'est les théories libérales dans laquelle l'économie est totalement dérégulée. C'est une version du libéralisme, mais ça n'est pas le libéralisme tel qu'il était initialement conçu. Et encore une fois, si la définition première est la mise en avant de la liberté des hommes, et à ce moment-là, il faut réfléchir, à mon sens, en partant de là. En partant de là, moi j'ai une théorie, une thèse, elle est un petit peu brutale, si on veut, c'est que d'abord, les notions occidentales, les nations occidentales ne sont pas dans un état très flamboyant. La crise économique leur a flanqué un coup assez vigoureux, à la fois au plan économique, mais également, me semble-t-il, au plan moral, parce que, après tout, ce sont quand même les pays occidentaux qui ont déclenché cette crise économique avec des pratiques économiques dont certaines sont maintenant unanimement ou quasi unanimement jugées totalement aberrantes. Et donc, quand on voit que ce problème qui a une certaine généralité dans les nations occidentales, qui toutes se réclament du libéralisme sous une forme ou sous une autre, on peut se demander s'il y a une origine commune. Et je pense que oui, et l'origine commune pour moi, c'est que la notion de liberté qui est au cœur de tous ces systèmes est pensée de façon partielle, c'est-à-dire qu'on pense la liberté sans mettre en face les devoirs qui sont associés à la liberté. Et donc, ma thèse, qui est un peu générale, encore une fois, est certainement très, très théorique à ce stade, est que le libéralisme est malade de l'idée de liberté, d'une idée de liberté incomplète, parce que la notion d'altruité n'y a pas été correctement incorporée. Et donc, si j'ai raison, à ce moment-là, théorique intellectuelle pour rebâtir une philosophie politique cohérente et adaptée aujourd'hui, c'est bien de repenser à la base la notion de liberté, d'introduire l'altruité dans les dispositifs et de voir comment cela se décline dans l'ensemble du dispositif libéral, le dispositif politique, avec son expression politique sous forme de système démocratique, et le dispositif économique, dans lequel il faut reconnaître que l'économie libérale la plus dérégulée a pris le devant de la scène jusqu'à la crise financière, où effectivement le libéralisme économique dérégulé a quand même reçu un petit coup dans les carreaux. Mais ce petit coup dans les carreaux, il s'est accompagné de désastres personnels pour des millions de personnes. Aux États-Unis, vous avez des millions de gens qui ont perdu leur maison. Enfin, c'est une crise absolument effarante.
Justement, pour réguler ce libéralisme, est-ce qu'une des solutions serait d'introduire nécessairement la notion d'économie sociale, d'avoir une part de sociale à intégrer justement dans ces systèmes?
Prenons le chapitre économique, si vous voulez. L'économie libérale, ultra-libérale, si vous voulez, a dérivé pour une raison que je résume ainsi. Dans l'ultralibéralisme, la notion de liberté a été transférée à l'économie, à l'échange, et dans ce transfert excessif et, à mon sens, illicite, les individus ont perdu la liberté. Ce qui est le paradoxe, c'est qu'au nom de la liberté, on fait perdre la liberté aux individus. Bon. Et donc, il y a une espèce de jeu de passe-passe intellectuel dans le libéralisme économique dont il faut bien prendre conscience et qu'il faut vigoureusement dénoncer. Je pense que c'est absolument capital. À partir de quoi, si vous voulez, toute économie dans laquelle bien des individus est mis en avant est une économie de type social. Bon. Et on a bien vu comment la notion de liberté s'est déplacée au cours de l'histoire depuis sa naissance sous forme de théorie libérale, avec la création de droits sociaux de plus en plus abondants. Ces droits sociaux sont en fait autant de devoirs qui sont transférés à la collectivité. Et je pense que le problème, c'est que dans la foulée, on a en quelque sorte oublié les devoirs individuels associés à la liberté, et à force de transférer de plus en plus d'obligations à la collectivité, sans que les individus se mettent en question par rapport à ces transferts et à leurs devoirs individuels, on arrive dans ce qui ressemble, dans certains cas, une impasse.
Et c'est vraiment un travail, j'ai envie de dire, de penser à faire au sein de chaque citoyen, puisque si on regarde, par exemple, les États-Unis, pays du libéralisme, vous en parlez dans votre livre. Parallèlement, c'est un des pays qui a du mal à instaurer une couverture médicale pour tous.
C'est un exemple extrêmement frappant. Le président Obama a eu un mal fou à faire passer une réforme qui, en France, nous paraîtrait quand même assez évidente. Donc, il y a des différences culturelles profondes. Et je pense que l'un des problèmes, c'est la notion ou la confusion entre altruité et générosité. Il y a aux États-Unis une culture de la générosité qui est très forte et qui est très intéressante et qui est magnifique, hein, mais ça suffit pas. Encore une fois, la générosité est dans l'espace des droits. C'est une liberté qui est donnée aux individus et c'est cohérent avec les doctrines d'économie libérale et ultralibérale puisque l'individu étant libre de faire ce qu'il veut, il est libre d'être généreux. Mais je constate de façon intéressante que l'un des plus impressionnants mécènes de l'époque, Bill Gates, a demandé il y a quelques mois publiquement que les Américains les plus riches payent plus d'impôts. Il me semble que c'est une reconnaissance par ce très grand mécène et qui fait des choses absolument admirables que la générosité, y compris la plus grande, la sienne, ne suffit pas. Il faut encore quelque chose en plus. Donc je ne suis pas en train de dire que la générosité n'est pas belle et ni utile, c'est absolument pas ça. Je dis simplement qu'elle ne peut se substituer à la notion d'altruité en tant que devoir rationnel, froid, c'est pas de l'empathie, c'est pas du sentiment, c'est, comment vous dire, la réflexion introspective qui, genre, chacun d'entre nous fait penser, ben oui, c'est comme ça, il y en a d'autres qui ont des problèmes, et il y a un devoir de les aider, puisque finalement, d'une manière ou d'une autre, ils nous ont aidés à construire nos libertés.
Vous évoquez aussi dans votre ouvrage la notion de justice sociale au niveau mondial. Comment pourrait-on arriver justement à cette justice sociale sur le plan mondial ?
On est évidemment dans une péréquation qui est compliquée, mais difficile à mettre en œuvre. Je la formule comme ceci. En gros, on peut penser que ces définitions de liberté et d'altruité au niveau de l'individu peuvent être retrouvées à un niveau plus global et dire, au fond, n'importe quel groupe social qui demande ou estime qu'il a droit à la liberté doit comprendre qu'il a aussi un devoir d'altruité. Le même type de raisonnement s'applique. Et donc, si vous voulez, à l'échelle d'une nation, ça conduirait à dire, ben, une nation devrait faire son introspection, évaluer ses libertés, c'est donc au sens des libertés de scène, hein, et mettre en face les devoirs qui correspondent. Et ces devoirs qui correspondent sont des devoirs internes, mais également externes. Et donc, dans cette logique-là, la question de la justice sociale au niveau mondial devient une question de, comme je l'ai dit tout à l'heure, de trouver du consensus par des propositions qui soient plus équitables possibles. Et cela demande, à mon avis, une analyse de nos devoirs nationaux maintenant. Qu'en fait, d'ailleurs, nous faisons, dans une certaine mesure, nous pratiquons en France et ailleurs de l'aide au développement, même si, à vrai dire, en France, nous truquons un peu les chiffres et que les engagements qui avaient été pris d'atteindre 0,7% du PIB dans l'aide au développement, nous en sommes, je crois, à 0,3%, ce qui n'est pas absolument glorieux. Mais enfin, juste pour dire que ces préoccupations existent déjà, je pense qu'il faut les mettre plus en forme, les affirmer avec beaucoup plus de vigueur. Et c'est un peu là, si vous voulez, que je situe le libéralisme altruiste, c'est-à-dire que la notion d'altruité et les devoirs qui vont avec doivent être mis au centre, à côté de l'idée de liberté, mais au centre des théories libérales.
Là, nous arrivons au terme de notre émission. Il y a bien sûr, à la fin de votre ouvrage, 40 points, 40 propositions d'action pour mettre en marche cette dimension d'altruité. On en a déjà évoqué plusieurs points au cours de cette émission. Quels seraient les autres points essentiels à vos yeux ?
Je pense que l'important, le plus important, c'est un, d'incorporer cette notion d'altruité dans notre boîte à outils intellectuelle et de comprendre qu'il y a derrière un projet fantastique. Les perspectives sont quand même pas tout à fait roses. On attend 2,5 milliards d'individus en plus sur la planète dans les 40 ans qui viennent. Ce serait quand même mieux de les nourrir et puis leur assurer un minimum de vaccins, de santé et d'hygiène. Bon.
À ce sujet, pardon, je me permets de vous couper parce que il y a un rapport de l'Académie des sciences qui est sorti il y a très peu de temps, qui s'appelle Démographie, climat et alimentation mondiale, et qui parle justement de cette question de la faim dans le monde. Actuellement, 1 milliard d'êtres humains ne mangent pas à sa faim. Et ils évoquent des raisons plus politiques que sanitaires, parce qu'en théorie, on pourrait déjà nourrir cette population. Encore faut-il s'en donner les moyens. C'est ce qui ressort de ce rapport notamment. Donc on en revient justement à cette question de justice sociale au niveau mondial.
Tout à fait. Et j'en suis complètement d'accord. Le problème est beaucoup moins les moyens techniques encore, qui est quand même quelques difficultés techniques, et que l'usage des OGM, par exemple, pourrait quand même faciliter un certain nombre de choses, probablement. Mais au-delà de ces moyens techniques, il y a une question de volonté, de système, de répartition des richesses au niveau mondial, de pas gréver le cours des céréales par des manipulations boursières, etc., etc., si vous voulez. Et dans tous ces mécanismes, je pense que nous devons prendre en compte nos devoirs. Si nous ne le faisons pas, évidemment, les systèmes peuvent dériver presque à l'infini. Donc, au total, ce que je crois vraiment, c'est que remettre l'altruité au centre de la réflexion aux côtés de la liberté est vraiment le fondement d'un libéralisme que j'appelle libéralisme altruiste, mais c'est un vrai changement dans le libéralisme, si vous voulez. C'est pas quelque chose d'anodin, c'est pas une correction marginale, c'est vraiment de s'attacher à repenser un peu les fondements mêmes du libéralisme.
Finalement, vous en appelez à la responsabilité, au bon sens et à la responsabilité ?
J'en appelle au bon sens, oui, parce qu'effectivement, il y a une notion morale, mais qui est appuyée sur une articulation logique qui me paraît solide. Encore une fois, la liberté des autres, des uns est construite grâce à celle des autres. Et deuxièmement, il y a un vrai projet, si vous voulez. Je pense que cette notion de projet est importante, parce que si on parle uniquement d'obligation, c'est rasoir, ça ennuie tout le monde, etc. Mais le projet, c'est quand même de faire vivre, comme je l'ai dit, 2,5 milliards d'individus supplémentaires et de maintenir la planète dans un état correct pour nous-mêmes et nos enfants. Donc il y a un véritable projet, un projet enthousiasmant et un projet qui justifie, je pense, qu'on y passe un peu de temps et qu'on passe sur les quelques menus problèmes que nous pose l'idée d'avoir quelques devoirs supplémentaires.
Merci Philippe Kowalski. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le Manifeste de l'altruisme, paru aux éditions Odile Jacob en avril 2011. Un ouvrage destiné à tous et en particulier aux économistes ou ils ne sont pas spécialement visés ?
Oh, comme les autres.
Comme les autres. Merci à vous et j'espère à bientôt pour un prochain volet de l'altruisme alors. Car on ne dit jamais 203. Merci.